Louis.
Si la lecture peut nous obséder enfant et nous faire ressentir des émotions parfois inattendues, c'est qu'elle met souvent le doigt sur des choses que l'on pressent, mais qu'on ne se formule pas encore. Ou que le monde adulte nous cache, évite de trop nous dire. Il y avait un livre que j'adorais vers 8-9 ans. J'ai oublié son titre, mais je me souviens simplement de quelques pages à travers lesquelles un rapport sexuel se déchiffrait. Ça m'avait troublée et je sentais bien que là, l'indicible était exprimé. Le livre du jour a bouleversé la jeune adolescente qui était l'écrivaine Emmanuelle Richard. Grâce à lui, elle fit un plongeon dans la cruauté des relations humaines et des dynamiques de pouvoir. Et cela confirmait les expériences qu'elle pouvait, en tant que jeune collégienne, traverser dans sa propre vie. La question des rapports de force habite aujourd'hui son œuvre. Dans Désintégration, par exemple, elle décrypte la violence d'une jeunesse dorée face à son héroïne qui galère à Paris entre ses études et ses petits boulots. Sa honte se transforme en haine et lui permet peut-être de retrouver une forme de dignité. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
Depuis à peu près un an et demi, depuis, ouais, c'est ça, à peu près 18 mois, j'ai rendu mon appart à Paris et c'est pour ça qu'en ce moment je suis à Rennes. Avant j'étais à l'étranger. En fait, j'ai plus de bibliothèque à moi. J'ai mis tous mes livres dans un espace de stockage. Avant, c'était rangé plutôt dans des bibliothèques de base, des bibliothèques Billy. Mais depuis que je suis partie, j'ai tout réuni dans un lieu de stockage et chaque mois, je me demande si je vais pas carrément m'en séparer. Et là, je pense à Constance Debré, ce qu'elle dit par rapport à ça, qu'à un moment, elle s'est débarrassée de tous ses livres, qu'elle s'est rendue compte que c'était pas grave parce que les livres, finalement, vivaient en elle. Et j'ai cette tentation tous les mois régulière. Donc, je sais pas si je vais le faire. En revanche, il y a une chose que je peux énoncer, c'est qu'elle était assez hétéroclite. Je lis pas mal de choses différentes. Je hiérarchise pas des masses et je peux lire autant de la BD que du manga, que de la littérature dite de jeunesse. Que, enfin voilà, moi je pense que c'est très important quand on, encore plus quand on écrit, de lire absolument le plus possible de tout. Comment j'ai vécu la sortie des corps abstinents et comment ce texte a-t-il été accueilli? Moi, j'ai été très contente, vraiment très heureuse de la sortie. C'est un livre qui, sur le moment, a suscité pas mal d'intérêt, qui commençait à circuler beaucoup. Donc, c'était une sortie qui se passait extrêmement bien. Et puis, du point de vue des réactions provoquées, moi, j'avais l'impression d'avoir atteint ce que je cherchais, en tout cas de toucher un peu ce que j'essayais d'obtenir en effectuant ce travail, c'est-à-dire que ça ouvrait pas mal de discussions. Et les gens qui avaient lu, ce qui se dégageait quand même, c'était beaucoup de bienveillance. Et ce qui ressortait aussi, c'était que ça complexifiait pour les lecteurs leur idée de l'abstinence, et puis il y en a d'autres qui semblaient beaucoup soulagés aussi par le fait de se rendre compte qu'ils n'étaient pas du tout seuls là-dedans et que c'était beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. Donc bah en fait c'est un livre que j'ai cherché beaucoup à un moment donné où dans ma vie personnelle j'en avais besoin. J'aurais vraiment eu besoin de voir comment faisaient les autres pour gérer ça. C'était une question qui me rendait très malheureuse. Et quand j'arrive pas vraiment à me débrouiller toute seule, c'est vrai que ma solution, c'est d'aller essayer de trouver une réponse dans les livres. Et là, à part le titre de Sophie Fontanelle qui s'appelle L'envie, qui est très beau, mais qui, à mon sens, aborde presque exclusivement les aspects plutôt positifs de l'abstinence, il y avait pas, c'était plutôt un livre qui n'existait pas. Ça, chez moi, ça se passe souvent comme ça, mais un livre manquant, c'est très souvent le point de départ d'un travail d'écriture dans l'avenir, en tout cas. Et moi, ça m'importe vraiment beaucoup cette idée de, quand je fabrique un livre, de construire un outil qui va permettre au lecteur, ou en tout cas à certains lecteurs, de se sentir moins seul. Parce que moi, c'est ce que je cherche souvent quand j'ouvre un livre, quand j'écarte les considérations esthétiques, mais quand je m'intéresse au fond, vraiment l'idée de, voilà, d'offrir un texte qui soit une possibilité de réconfort, tout simplement, je crois. Est-ce que j'ai en tête des livres qui m'auraient inspiré dans le fait de mener une enquête à la première personne, à partir d'une expérience personnelle? D'un point de vue général, ce sont les livres et les écrivains qui racontent le monde en engageant leur expérience personnelle qui m'intéressent le plus. Et donc, je pense évidemment à Emmanuel Carrère, mais je pense aussi à Joan Didion, je pense à Maggie Nelson, je pense évidemment au travail d'Annie Ernaux, plus récemment à ce que j'ai découvert du travail de Constance Debré. Voilà, moi j'aime bien les écrivains qui se racontent, et ce qui me passionne le plus et que je trouve le plus fort, c'est toujours quand l'auteur réussit à créer une circulation entre sa propre expérience et puis après, soit un motif, soit un sujet, soit quelque chose qui relève de l'état du monde. C'est ça qui m'intéresse toujours, aussi bien en tant qu'autrice que lectrice. J'ai choisi le livre « Sa majesté des mouches » de William Golding. Pour résumer en quelques phrases ce qui se passe dans ce livre, c'est un groupe de jeunes garçons anglais qui sont à peine adolescents ou préadolescents, je sais plus précisément quel âge ils ont, peut-être entre 12 et 15 ans maximum, qui, suite à un crash d'avion, vont se retrouver livrés à eux-mêmes sur une île déserte. Les membres de l'équipage, donc les seuls adultes qui étaient autour d'eux, périssent, donc ils sont vraiment seuls sur cette île, sans aucun adulte autour d'eux. Le fait que l'action se situe sur une île déserte est très important parce que ça permet de faire advenir cette situation très particulière où un groupe de jeunes humains vont essayer de refaire société à partir de rien et vont se réorganiser dans une sorte de dynamique de tabula rasa où ils doivent tout recommencer, tout reprendre de zéro. Excepté le fait que chacun porte avec lui son bagage d'éducation, puisque ce sont de jeunes garçons de la bonne société anglaise. Donc il y a quand même le bagage de l'éducation qui est présent, mais à part ça, l'idée c'est de donner à voir des personnages en situation où ils doivent tout réinventer. Le passage qui m'a particulièrement marqué, c'est... Bon, il y a toute la montée en puissance de la violence qui s'installe peu à peu sur l'île, mais ce qui m'a vraiment, qui m'avait profondément plongé dans le trouble, c'est cette scène de chasse à la fin, quand les enfants après construisent un feu et si mes souvenirs sont bons, dansent autour du feu. Et je pense que ce qui m'avait le plus sorti de tous les repères que j'avais, c'est qu'à un moment, je sais pas si on comprend ou si c'est clairement expliqué, mais que le tabou ultime de l'anthropophagie a été consommé. On comprend qu'un des garçons a été tué et si mes souvenirs sont pas trop erronés, il y a un moment on voit cet enfant sur une broche, clairement, qui est traité comme un des cochons après lesquels les garçons couraient les semaines précédentes pour se nourrir. Et c'est un des leurs qui est cette fois à la place du cochon. Donc ça m'avait vraiment plongé dans un état où j'étais pas bien sûr certaine de ce que j'avais lu. Et c'est ce trouble-là qui m'avait vraiment... fait sortir de moi-même et me dire qu'il y avait là un territoire à l'intérieur de ces objets qui étaient les livres qui pouvaient être des territoires et d'exploration de sentiments. Alors évidemment, je ne me l'étais pas formulé comme ça, mais des territoires où tout est possible et qui parallèlement permettent d'exprimer, pas la vérité parce que ça n'existe pas, mais une vérité qui n'est pas dissible dans le cadre social. Et ça, j'avais trouvé ça... Je pense que c'est ça qui a été extrêmement important. C'est la découverte de l'existence d'un tel territoire. Je pense que ça dit quelque chose de l'écrivaine que j'essaye de devenir. C'est-à-dire que, à mon avis, enfin ma conviction profonde, et qui est reliée à l'importance qu'a pris ce livre dans ma vie, c'est que pour qu'une chose fonctionne sur le lecteur, il faut passer par le ressenti. Il faut passer par la monstration, par l'incarnation, par le ressenti avant toute... Enfin, pour moi, la littérature, c'est ça. C'est pas l'explication, C'est pour qu'une chose soit juste, il faut l'incarner et il faut que ça suscite des événements à l'intérieur du lecteur, mais qui soient de l'ordre de la sensation, de l'émotion et ouais, qu'on peut tout montrer, qu'on peut tout faire passer si on arrive à atteindre cette transmission d'un certain ressenti. Voilà. Et après, je pense que ça disait quelque chose de mon rapport au monde de l'époque. C'est-à-dire que cette lecture-là et la scène de chasse et toute la sauvagerie qui est véhiculée dans ce texte, paradoxalement, moi, ça m'avait rassurée. Parce que je m'étais dit, voilà, enfin, la vérité, enfin, en tout cas, une vérité, la manière dont sont exactement les jeunes garçons entre eux quand ils se constituent en groupe. Et je pense que c'est relié directement à la place que j'avais au collège, alors qu'il y a un temps assez difficile à vivre pour pas mal de gens, et moi c'était mon cas. Alors je me faisais pas taper dessus, mais j'avais quand même cette idée, cette espèce d'acouphène en permanence présent à l'esprit, comme quoi c'était une possibilité. J'avais pas une bonne place dans la hiérarchie du collège, et donc c'était assez familier, les idées de cruauté, de brutalité, de domination, d'effet de groupe, etc. C'était des choses qui m'étaient familières et assez quotidiennes. C'est un âge auquel j'étais assez vulnérable, et donc cette lecture, elle m'avait étonnamment rassurée en me faisant me dire que j'étais pas dingue, en fait, que ce que je percevais des autres et de la manière de fonctionner des autres au travers d'une certaine brutalité, malgré ce que les adultes qui m'entouraient en disaient, comme quoi ça n'existait pas vraiment. Ben, en fait, si, bien sûr, ça existait et ce que je ressentais était juste. Donc voilà, ça m'avait beaucoup, beaucoup rassurée. Donc c'est un texte qui a révélé à la jeune personne que j'étais à l'époque la cruauté de l'âme humaine et le goût, en tout cas la tendance, le penchant pour les rapports de domination, qui je pense ouvre tout rapport interpersonnel. Je pense que tout rapport avec un autre, et il me semble que Emmanuel Carrère évoque cette idée, je sais plus dans quel texte parce que j'ai tout lu de lui, comme quoi une relation entre deux personnes, ça s'ouvre toujours par une manière de se jauger, qui est même pas conscientisée en fait, mais où chacun cherche à se situer par rapport à l'autre et à savoir qui est le plus fort. Et oui, je pense que ça existe, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'obsède complètement et qui énerve tous mes textes. Parce que, disons que au quotidien, sans même prendre en considération mon travail d'écrivaine, ça m'intéresse, ça me passionne en fait de regarder, et je suis très attentive à ça, mais sans même le chercher, j'ai une acuité par rapport à ça, par rapport à la manière dont on se jauge les uns les autres, dont on se regarde, dont on se parle, dont... Même très banalement, quand on fait ses courses, la manière dont les gens parlent aux employés, c'est quelque chose à quoi je suis très sensible et que je capte. Et aussi la manière dont on occupe l'espace avec son corps, ça dit quelque chose de la façon dont on se considère, dont on se situe et dont on interagit avec les autres. Ça fait partie des choses qui me meuvent et que j'observe malgré moi au quotidien et qui parcourent tout mon travail d'écriture parce que c'est ce qui me... Sans même que je le réfléchisse ou que j'essaye de l'articuler, c'est ce que je regarde, quoi. C'est ce que j'écoute, c'est ce que j'observe, c'est ce que je capte. Et c'est pas impossible que cette sensibilité particulière assez élevée à tous ces mouvements-là, tous ces détails et éléments-là, et même au sous-texte de tout ça, à mon avis, ça vient pas mal du fait que dans ma vie personnelle... à des âges différents, dans des contextes différents, dans des moments de vie différents. J'ai vraiment occupé dans l'espace social des places extrêmement différentes et j'ai été vraiment frappée à chaque fois de l'importance des conséquences de ce positionnement dans l'espace social sur justement la manière dont les autres vont s'adresser à vous, agir avec vous, vous considérer. Et je trouve que c'est d'une très grande brutalité Et je pense que ça vient de cette accumulation de places successives que j'ai pu occuper et au travers desquelles j'ai pu éprouver ça, assister à ça en ce qui me concernait moi, mais aussi par rapport aux collègues qui m'entouraient. Je l'ai éprouvé, je l'ai vécu moi personnellement, mais j'ai aussi assisté à un nombre incalculable de scènes frappantes. Je pense que pour Golding, c'était l'enjeu de Steck, c'était de montrer voilà ce qui se passe dès qu'on lève le voile des bonnes manières. Mais une question qui me paraît intéressante et qui va avec le type de questionnement que j'aurais aujourd'hui avec du recul, c'est est-ce que Golding considérait que cette impossibilité, elle venait de la nature humaine, donc de quelque chose de profondément intrinsèque, ou est-ce que ça relevait plutôt de la manière dont on éduquait les enfants, en l'occurrence ici des jeunes garçons? Je pense que c'est une question très intéressante et qui fait écho avec le grand questionnement sociétal d'aujourd'hui, qui est qu'est-ce que c'est d'être un homme, qu'est-ce que c'est la masculinité ou les masculinités, parce qu'il y a autant de masculinités qu'il y a d'hommes différents. Qu'est-ce que c'est que la virilité? Est-ce que ce groupe de garçons livrés à eux-mêmes donnerait la même chose si tous ces jeunes garçons avaient été élevés différemment, en dehors d'un cadre patriarcal, avec la transmission des valeurs patriarcales qu'on connaît, qui sont la valorisation de la brutalité, la valorisation de l'indépendance, la non-éducation à l'empathie. Tous ces éléments-là, est-ce que si on faisait différemment, est-ce que si ces jeunes garçons avaient été éduqués d'une autre manière, le résultat sur l'île produit serait-il le même? Ça, c'est une question que je me poserais maintenant, aujourd'hui, avec force. Quels autres textes j'aimerais conseiller aux auditeurs qui écoutent et aux auditrices? Je vais citer ça parce que j'aime beaucoup ce mec-là. Je pense à Simon Johannin et donc à Capucine Johannin, puisque leur deuxième roman a été écrit à quatre mains. Il y a plein de trucs que j'aimerais citer, mais vraiment, ça, c'est super fort, super beau. Voilà, il faut lire Nino dans la nuit. Nino dans la nuit, c'est magnifique. Et j'ai pas croisé Capucine Johannin, mais j'ai croisé Simon. Et c'est un mec que je trouve adorable et extrêmement intelligent et doux. Et c'est rare chez les mecs. Donc voilà, lisez Nino dans la nuit, c'est formidable.
Vous venez d'écouter Emmanuelle Richard à son micro et elle répondait aux questions que je lui ai envoyées. Elle vous recommande Sa Majesté des Mouches de William Golding, paru chez Gallimard, disponible en folio, et traduit par Lola Tranek. Emmanuelle Richard est écrivaine, elle a signé Désintégration aux éditions de l'Olivier, puis cette année, Les corps abstinents chez Flammarion. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Amel Almia a fait le montage de cet épisode, et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. C'est la rentrée à Louis Média. Notre podcast Émotion entame sa troisième saison et Travail en cours continue sa première saison. Vous les retrouverez sur toutes vos applications de podcast préférées. Bonne écoute et à très vite!
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.